Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Nous voulons aborder, avec une perspective biblique, les questions qui nous touchent au quotidien.
C'est pourquoi nous poursuivons aujourd'hui notre série de discussions sur le thème de l'amitié. Cédric est de retour parmi nous pour nous en parler.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Bonjour et merci d'être présent parmi nous. Lors de nos deux dernières émissions, nous avons parlé de l'amitié en nous appuyant sur des proverbes bibliques. Et nous allons, je le pense, continuer cette discussion aujourd'hui.
C'est exact, Yann. Et pour nourrir nos échanges, je vais à présent choisir des proverbes qui nous mettent particulièrement en garde contre certains comportements. Autrement dit, pour bien préserver ou entretenir une amitié, certaines choses sont à éviter, afin de ne pas contrarier ou offenser un ami.
Quel est donc le premier proverbe ?
Écoutons ensemble notre lectrice pour le découvrir.
Ne va pas trop souvent chez ton ami, de peur qu'il ne se lasse de toi et ne te prenne en haine.
Nous pouvons éprouver beaucoup de joie à être en compagnie d'un ami, mais ce proverbe nous met en garde contre le danger de passer trop de temps avec lui.
Il est donc possible d'abuser d'une amitié ?
Oui, c'est exact. Il est possible de trop attendre d'un ami, de trop lui demander. Cela s'applique non seulement en termes de temps passé avec son ami, mais aussi en termes de services rendus, de faveurs, d'aide ou d'argent sollicité. Si nous exigeons trop d'un ami, l'amitié pourra rapidement devenir un fardeau. Et nous risquons, à force d'agir ainsi, de la perdre. Ce risque est d'autant plus présent lorsqu'aucune réciprocité n'intervient dans l'amitié. Lorsque l'un des amis ne cesse de demander à l'autre sans jamais donner en retour.
Oui, je comprends. De telles relations peuvent être vouées à l'échec. Nous avons vraiment besoin de beaucoup de sagesse afin de ne pas trop demander de nos amis. Mais existe-t-il d'autres proverbes qui présentent encore des conduites à éviter?
Oui, notre lectrice va en lire deux.
Si de grand matin, quelqu'un vient bénir son ami à voix forte, ce sera pris comme une malédiction. Entonner des chansons pour une personne affligée, c'est comme lui enlever son habit par un jour de froid ou verser du vinaigre sur du salpêtre.
Si le premier proverbe étudié nous encourage à ne pas trop demander d'un ami, ces deux autres nous montrent que nos bonnes intentions peuvent parfois arriver mal à propos. C'est pourquoi ces proverbes nous encouragent à réfléchir avant d'agir, à considérer nos paroles avant de les prononcer, à s'assurer que la situation est appropriée. En un mot, avoir du tact.
Dans le deuxième proverbe, une personne, saluant brillamment son ami encore dans son lit, nous est présentée.
Oui, il s'agit simplement d'un rappel que nous n'aimons pas être dérangés durant certains moments de la journée. Alors, avant de se rendre chez un ami, ou même avant de l'appeler au téléphone, il serait bon de se demander si le moment est approprié pour lui. Bien sûr, nous ne pourrons pas toujours tout deviner par avance, mais nous pouvons travailler dans ce sens, montrant à notre ami que nous prenons sa situation en considération.
Dans le troisième proverbe, nous découvrons une personne chantée en la présence d'une autre qui souffre. Est-ce pour lui remonter le moral ?
C'est possible, Yann, et vouloir remonter le moral à un ami est une bonne chose. Toutefois, si une personne est profondément affligée, il faut soigneusement réfléchir à ceux qui pourraient lui faire du bien. La Bible nous enseigne que nous devons pleurer avec ceux qui pleurent et nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Une personne endeuillée ou plongée dans la douleur ou le découragement n'a pas besoin d'être secouée par des paroles gaies et légères. Une personne affligée est avide de véritable consolation. Elle a besoin de la présence d'un ami compréhensif et compatissant. Elle a besoin d'entendre des paroles mesurées, réconfortantes et capables de fortifier sa foi et son espérance.
Merci. Nous avons le temps de lire un dernier proverbe, je pense.
Oui, nous allons écouter celui qui se trouve au chapitre 17, verset 9. Nous avons évoqué certaines conduites pouvant mettre en danger une amitié. Bien sûr, dans toutes les relations personnelles possibles, des incidents peuvent intervenir, risquant de blesser ou de contrarier celui ou celle que nous aimons. Comment faire alors lorsque cela arrive ?
Qui veut se faire aimer pardonne les torts qu'il a subis. Les rappeler éloigne son ami.
Pour conserver une amitié, il faut savoir pardonner. Il peut arriver que nos amis nous blessent ou nous déçoivent. Mais si nous sommes capables de surmonter ces incidents en pardonnant, nous nous conduisons en bon ami. Par contre, si nous rappelons toujours à nos amis les moments où ils nous ont blessés, si nous les accusons de tel ou tel tort, l'amitié peut à la longue se refroidir pour éventuellement se briser.
Merci encore pour tous ces bons conseils. Ce dernier est particulièrement important. La prochaine fois, Cédric sera de retour parmi nous pour tirer des leçons sur la grande amitié qui lie David à Jonathan, deux personnages que nous rencontrons dans l'Ancien Testament.
La Bible se sert souvent d'illustrations, choisies à partir de thèmes de la vie vécue au quotidien ou dans la nature, pour nous aider à comprendre la façon dont nous devons vivre notre foi. Nous réfléchissons actuellement sur l'illustration de l'arbre, trouvée dans le psaume 1.
Hélène va lire dans le psaume 1, les versets 1 à 3. Ensuite, Jaffa nous rejoindra afin de continuer à expliquer le sens de cette illustration.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit.
Jaffa, bonjour.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous considérons ce psaume pour la troisième fois. Nous avons déjà appris que le chrétien y est comparé aux arbres qui endurent les épreuves, représentés par la chaleur et la sécheresse. Or, ce chrétien doit produire du fruit, car son témoignage doit honorer Dieu. Pour parvenir à la pleine réalisation de ces choses, la Bible, qui est la parole de Dieu, doit être au centre de sa vie. Il doit la méditer autant que cela lui est possible.
Oui, il est important de noter que selon le psaume, la raison pour laquelle cet arbre est toujours vert et produit du fruit, c'est qu'il est planté près d'une source d'eau. Nous pouvons en conclure, s'il ne se trouvait pas de source d'eau, confronté à ce climat chaud et rude, l'arbre se dessécherait et ne pourrait plus du tout produire de fruits, car un arbre sans eau a du mal à survivre.
Que représente donc cette source d'eau dans la vie chrétienne ?
Le chrétien, pour tenir ferme et produire du fruit à la gloire de Dieu, a besoin d'être nourri par ce dernier. Lors de notre émission précédente, nous avons souligné l'importance de la méditation de la Bible, la parole de Dieu. Or, le psaume 1 établit un parallèle entre la source d'eau et la Bible. Autrement dit, l'Éternel nourrit tout ce qui vient à lui et il le fait par sa parole.
Si donc un chrétien néglige de méditer la Bible, sa foi, par manque de nourriture, ne pourra ni croître ni se développer, et sa vie spirituelle en pâtira.
C'est exact. Le chrétien qui néglige l'enseignement de l'Éternel, tel qu'il est révélé dans la Bible, sera comme un arbre planté loin d'une source d'eau. Il éprouvera des difficultés à endurer les épreuves. Il aura du mal à rester fidèle, confronté à la tentation. Il lui sera difficile de tout surmonter. Sa croissance vers une plus grande maturité de foi sera compromise, de même que ses fruits à la gloire de Dieu.
L'enjeu est vraiment de taille. Rappelez-nous quels fruits l'Éternel désire voir dans nos vies.
Lisons les versets 22 et 23 du chapitre 5 de l'épître de Paul aux Galates pour pouvoir vous répondre. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi.
En effet, il nous faut ressembler à Christ en développant en nous les fruits qui le caractérisent. Toute personne qui produit ce fruit fera resplendir en lui la beauté de Dieu. Toutefois, Jaffa, ce verset soulève une question car ce fruit est appelé le fruit de l'esprit. Or, nous avons affirmé que ce fruit ne peut naître qu'à travers la lecture ou l'écoute de la parole de Dieu. Pourquoi alors n'est-il pas appelé le fruit de la Bible?
Votre question est à la fois pertinente et très importante. En effet, une lecture soignée du Nouveau Testament nous montre que l'Esprit de Dieu travaille en nous toutes les fois que nous lisons la parole de Dieu. Ainsi, l'Esprit de Dieu se révèle à nous lorsque nous méditons la Bible et il nous aide aussi à produire ce fruit qui honore Dieu.
Donc si le chrétien néglige de méditer la Bible, il se prive de l'Esprit de Dieu et nous ne pouvons espérer qu'il agisse dans nos vies.
C'est exact et malheureusement beaucoup de nos jours pensent qu'il est possible de chercher l'aide de l'Esprit de Dieu sans pour autant faire de la parole de Dieu sa priorité. Je suis convaincu qu'ils se trompent et que ceux qui nourrissent une telle pensée finiront comme ces arbres plantés dans les lieux arides qui, privés d'eau, ne poussent pas comme l'Éternel le désire. Ils restent faibles et vulnérables face à la tentation et l'épreuve et ne portent pas de fruits.
Mais ce psaume offre un espoir à tous ceux et celles qui se demandent justement comment ils vont pouvoir tenir ferme dans ce monde si malheureux où la souffrance est si présente.
Vous avez raison, Yann. Ceux et celles qui sont affligés et qui ploient sous le fardeau de diverses épreuves peuvent se tourner vers la parole de Dieu. À travers elle, ils trouveront la force de se relever. À travers elle, le Seigneur les encouragera. Il les consolera, il les fortifiera. La vie peut être rude, toutefois, il est possible de tout endurer et de tout surmonter grâce à l'Éternel qui nous nourrit par sa parole. Quand vous le dites, cette vérité représente un espoir précieux et nous devons nous encourager mutuellement à nous ressourcer à travers la Bible autant que cela nous est possible.
Merci Jaffar. Nous continuerons nos discussions sur l'illustration biblique faisant référence aux arbres la prochaine fois. Nous lirons ensemble un autre texte écrit par le prophète Jérémie et Jaffar sera de retour pour nous en parler.
Nous remercions nos deux invités pour leur enseignement enrichissant. En attendant la suite de nos deux séries, nous vous remercions pour votre écoute et vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.